Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Le réveil culturel sur France Culture. Toufik Hakem qui reçoit Fanny Ardant.
Et c'est un plaisir de vous recevoir, Fanny Ardant.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Mais on vous reconnaît à votre voix, vous le savez. Ça doit être assez lourd des fois quand vous ressorte toujours cette voix.
Je me rappelle d'avoir croisé quelqu'un qui m'avait dit « Vous êtes Fanny Ardant ?» Alors j'ai dit « Oui, vous avez absolument la même voix qu'elle. » Donc vous voyez que c'est surréaliste.
Vous l'avez toujours aimé votre voix, Fanny Ardant ?
Non. Mais vous aimez pas votre voix non plus.
Non, mais moi je m'écoute pas à la radio, mais bon.
Non, mais moi non plus, et donc...
Mais j'aurais aimé avoir votre voix, si c'est ça la question.
Je ne comprends pas de quoi on me parle, surtout.
Mais vous l'avez travaillé, par exemple,
pour le théâtre ? Non, j'ai dû changer de voix aussi. Quelquefois, quand on est en colère, ou quand on est timide, ou quand on est triste, on a des voix différentes. Donc quand je parle en public, j'ai une voix... Peut-être c'est une voix menteuse.
Et quand vous passez d'une langue à l'autre, vous avez l'impression de garder la même voix ou chaque univers linguistique vous ouvre un univers sonore différent dans les intonations?
Je pense que par exemple, moi j'aime beaucoup la langue italienne. Donc je m'y suis glissée comme on rentre dans l'eau chaude. Alors que la langue anglaise, je me rappelle de quelqu'un qui me disait « tu parles l'anglais comme les grenouilles ».
Bah dis donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Avec des croassements, je sais pas. Je pensais que la langue anglaise ne m'est pas naturelle. D'ailleurs, je parle comme les Arabes ou comme les Russes, vous voyez.
En roulant les airs?
Oui. Parce que parler l'anglais en roulant les airs aide quelque chose. Peut-être pour les Français. Parce qu'on n'a pas d'accent tonique, vous savez, en France. On parle tout. Alors que les Anglais, les Italiens, et les Arabes aussi. Les Russes aussi, sauf les Français. On disait qu'en France, c'est pour ça que c'est la fin de la phrase qui porte le sens. Parce que sinon, on est exclamatif, interrogatif, affirmatif.
Du théâtre au cinéma, du film d'auteur au film populaire, de Lola Pater de Nadir Moknash à Ma mère est folle de Diane Curis qui sort aujourd'hui. Fanny Ardant, vous enchaînez les rôles atypiques, j'allais dire de mère, mais non, c'est des rôles atypiques de père. Vous l'avez fait, et de mère en grande brouilleuse de repères face à des enfants trop sages, les enfants d'aujourd'hui.
C'est vrai. En même temps, je sais qu'il ne faut pas trop généraliser, mais c'est pas que les enfants, c'est qu'on arrive dans une décennie sage ou qu'on veut assagir. Je ne sais pas, il y aura toujours des électrons libres. Donc souvent, peut-être les enfants, tous ceux qui, on peut dire, après post-68, sont devenus peut-être plus raisonnable, ou est-ce que le monde a changé, tu vois? Moi, je ne suis pas une sociologue, ou je n'arrive pas à tirer des lignes de force, des choses.
Mais entre deux prises, que vous disiez, Vianney, qui joue dans Ma mère est folle de Diane Curis, qui sort aujourd'hui, je le disais, ou Taoufir Djellab, qui jouait dans le film de Nadir Moknash, est-ce que, après, vous vous posez des questions sur ce que ça a été, la liberté, dans les années 70, 80, ce que...
Non, mais moi, par exemple, j'ai toujours aimé la compagnie des jeunes hommes. Parce que je trouvais que des jeunes hommes en groupe, ils font les idiots, ils sont drôles, ils sentent le soufre, beaucoup plus que les jeunes filles, curieusement. Alors, dans les films, où j'ai pu avoir comme fils, Toufik,
ou comment il s'appelle, Vianney.
Et ben, curieusement, on aurait tort de les de mettre comme un groupe, parce qu'ils sont très différents. Avec Toufik, il y avait une grande insolence dans Toufik qui me plaisait. Parce que je trouve toujours que c'est l'apanage des garçons. Alors qu'il y a dans Vianney quelque chose de raisonnable, quelque chose de droit, quelque chose de sage déjà.
Ah, ce qui se rapproche du personnage du film de Diane Curis.
Oui,
il est pourtant très sage et il doit gérer une mère très rock'n'roll.
Je pense qu'on vit toujours par... contre ce dans quoi on a bercé, peut-être.
Madame Nina Weber?
Oui.
Maître Janvier, huissier de justice.
On a tous une mère. Quelquefois, on l'aime trop et parfois pas assez. Parfois, elle nous fait honte. Et souvent, elle fait n'importe quoi.
Elle est bonne, hein?
Alors ça, tu dois faire.
Quoi, ça?
Vendre. J'ai contact, Rotterdam.
On a tous une mère, mais... Vous connaissez pas la mienne.
Ça va?
Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma mère.
Une vraie beauté du Nord. Presque viking.
Alors, raconte-moi, la grosse vache hollandaise, elle est comment?
J'ai jamais dit qu'elle était moche, hein.
J'ai dit qu'elle était un peu forte.
Il est à qui, cet enfant-là?
Il est à personne. Il est abandonné, alors je l'ai recueilli.
Mais t'as fait ça officiellement?
Mais non, pas du tout.
Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout?
Oh, ça va!
Tais-toi, t'es complètement folle!
On ne dit pas t'es folle à sa mère!
Si je comprends bien, là, ton plan, c'est d'aller sonner chez un narcotrafiquant qui t'a aimé sur une plage dans les années...
Oui, bon, bah ça va.
Ta mère est une femme exceptionnelle.
Pourquoi tu m'as amené ici, là? Dis-moi la vérité. Lui, ce mec, là, Alvaro, c'est mon vrai père.
Et ce rire, Fanny Ardant, parlez-nous de ce rôle de mère, prête bon, à tout.
Une mère qui a eu une vie, comme vous disiez, rock'n'roll, qui a vécu d'expédients, qui s'est coltée à n'importe quel... Tout d'un coup, elle peut s'enthousiasmer pour produire des films, pour produire des disques, pour faire des perles, avec des...
Oui, parce qu'elle est bourgeoise, bourgeoise désargentée, mais oui. Bourgeoise.
Oui. Parce que tout de suite, ce qui est bien dans le film, on montre cette maison que les banquiers vont lui prendre. Donc on sent qu'elle a grandi dans la beauté, dans la douceur, dans les privilèges. Mais qu'elle ne veut pas renoncer. C'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Donc on la prend à un moment où, en effet, elle est partie dans une sorte d'expédition de sauvetage d'elle-même. Et que son fils va la suivre dans ses aventures rocambolesques, où seul son caractère irréductible, peur de rien, pas pour les lois, toujours... outcast. Donc, c'est ce personnage mis sous les yeux d'un fils qui, lui, sûrement, a dû choisir une vie plus cadrée, plus
alors, raisonnable. Soit ce rôle a été écrit pour vous, soit vous avez beaucoup intervenu dans l'écriture du scénario.
Non, parce que c'est le fils de Diane Curis, Sacha Sperling, qui l'a écrit. Diane m'avait quelquefois demandé de jouer dans ses films. C'est quelqu'un que je connais depuis quelque temps. Il n'y avait jamais rien que j'aimais assez pour dire, tiens, j'ai envie de faire ce film. Et puis tout d'un coup, au moment où on l'attend plus...
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage, alors?
C'est tout ce que je vous ai dit. Le fait de quelqu'un, tu vois, pas de victime. On s'en sort par ses propres moyens. On ne demande pas aux autres de vous aider. Flirtant avec l'illégalité. Et puis, emporté par cet amour fou qu'elle a pour son fils. Ils se sont séparés. Mais bon, il y a quelque chose... Elle compte... sur l'élan vital de la vie pour réconcilier les contraires, voyez.
Est-ce que les dialogues sont sacrés pour vous, Fanny Ardant, ou vous êtes du genre à improviser, à vous approprier le personnage pour pouvoir changer les dialogues, tout en restant bien sûr dans la logique du scénario?
Alors ça commence comme ça. C'est que j'ai un respect, un grand respect du texte. Mais que si j'ai un trou de mémoire, je ne m'arrêterai jamais pour dire « j'ai oublié ce que je disais ». Là intervient... le débrouillardisme, donc l'improvisation. Mais avoir un souvenir de quoi on parlait. Comme au théâtre, vous n'allez pas dire « j'ai un trou ». Donc vous improvisez. Moi, je suis quelqu'un qui vient du théâtre. Mais au départ, je préfère suivre très fidèlement un dialogue. Parce que comme je suis de nature obsessionnelle, je finirai toujours par dire la même chose.
Vous répétez beaucoup. Est-ce que, par exemple, vous préparez la même chose, un rôle au cinéma et un rôle au théâtre? Pour vous, c'est la même chose? C'est autant de répétitions ou c'est différent?
Le théâtre, il y a quelque chose, c'est comme on disait, le cinéma, c'est comme le sprint et le théâtre, c'est comme la course de fond. Vous savez, au théâtre, que quand s'ouvre le rideau, vous êtes livré à vous-même. Vous avez un début, un milieu, une fin et vous devez tout donner sans aide. Le cinéma, c'est des bouts. Quelquefois, vous commencez par la fin. Donc, et je pense que dans le cinéma, curieusement, c'est, vous savez, les Italiens, là, affresco, c'est hop, ce que vous allez lancer par instinct, qui est souvent sont les premières prises sont les meilleures. Parce qu'il y a quelque chose auquel vous n'avez pas trop pensé. Ce sont deux disciplines très différentes dans lesquelles l'acteur ou l'actrice est toujours le même. C'est-à-dire au moment où on dit action ou que le rideau s'ouvre, on joue. On donne tout, on essaye d'être le plus honnête. Après, moi, je dis souvent que c'est celui qui regarde qui est différent. Vous êtes un spectateur très différent si vous allez au cinéma ou si vous allez au théâtre. Ce qui est sollicité de vous est différent. Alors, mais je trouve qu'il ne faut pas trop répéter, curieusement. Même au théâtre.
Même au théâtre.
Je trouve qu'il y a toujours cette part d'adrénaline qu'il faut garder sauve. Tu vois, jamais assez près. comme le dernier combat, de se dire peut-être je préfère ça, que le côté déjà comme un hamburger que vous auriez mâchouillé pendant des heures. Non, je préfère le côté légèrement qui fait peur.
Et au musical, quand il faut passer par cet autre exercice qu'est la scène, en chantant, pour chanter le musical, pour vous, Fanny Ardant?
Impossible.
Et pourtant, vous avez chanté.
Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Oh, oh, oh.
C'était un plaisir pour vous de chanter Fanny Ardant avec Véronique Sanson?
Ça a été un grand plaisir, parce que c'est quelqu'un que j'admire incroyablement. Ses chansons, la tessiture vocale. Et donc quand j'étais avec Véronique, je savais que je ne pouvais pas être dans la même voix musicale. Donc ça faisait un écho. Que ce qu'on pourrait dire en chantant, mais que ce qu'on peut dire en parlant aussi. C'est la force de cette chanson, vous pourriez la parler.
Ouais.
Elle fait mal au ventre, hein.
Mais chanter pour vous, c'est un défi.
Moi, j'ai toujours chanté comme par effraction, dans un film.
Mmh. Ozon, chez Ozon, par
oui,
exemple.
Oui. Ou tout d'un coup sur au théâtre. Tu vois, comme si par effraction, les incertitudes et les défaillances sont permises. Parce que je pense que c'est un vrai métier de chanter. Je suis pas chanteuse, mais comme j'aime beaucoup la chanson, l'idée de rentrer pendant un moment dans une chanson que vous avez adorée. Moi, je connais toutes les chansons de Véronique Sanson. Comprenez que quand elle m'a demandé, j'étais contente.
Est-ce que vous retenez vos répliques, Fanny Ardant?
Pas toutes. Je sais que justement sur le film de Nadir Moknesh, j'ai dû dire « Je suis ton père ». Ça, je l'oublierai pas. Que je puisse dire dans ma vie « Je suis ton père ». Aïe, aïe, aïe.
Et puis, il y a une autre réplique qu'on n'est pas prêt à oublier. C'est toujours magique de vous entendre dire ceci.
Pour être aimé, il faut être aimable. Et moi, je suis bonne à rien. Bonne à rien. Il y a quelque chose en moi qui éloigne les gens.
Votre mari n'a pas l'air de s'éloigner de vous.
Mon mari m'aime. Mon mari est comme vous. Il fait très bien semblant d'écouter. Il m'a dit que tu devrais tourner la page. Il ne sait pas que cette page pèse 100 kilos. Non, personne ne s'intéresse à moi. Évidemment, vous êtes payé pour ça. Si tout ce qu'il y a dans ces livres est vrai, normalement, je devrais tomber amoureuse de vous en ce moment. Et pourtant, vous ne me faites aucun effet. Il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas dans le traitement.
Vous vous souvenez?
Très. Parce que justement, cette phrase, je l'ai souvent dite comme ça pour moi. Il y a quelque chose en moi qui éloigne les gens. Comme si C'était une phrase qui m'avait marquée.
Bon, on peut le dire, là, François Truffaut, il écrit un film sur mesure, pour vous.
Oui, mais...
La femme d'à côté.
Oui, la femme d'à côté, je me rappelle que j'avais reçu un synopsis de 6 ou 7 pages dans ma boîte aux lettres. J'avais été fulgurée. Parce que c'était tout ce que je croyais, qu'on peut mourir d'amour. Cette histoire était magique.
Vous l'aviez déjà rencontré
Non.
Truffaut, quand vous avez reçu cette lettre, non ?
Il m'avait vu dans Les Dames de la Côte. On s'était rencontrés un jour dans sa maison de production qui s'appelait Les Films du Carrosse. Et je me rappelle, j'étais très timide. Et que vous savez, quand on est très timide, l'adrénaline annihile votre intelligence ou votre façon de mener à bien une conversation. Et après, je savais qu'il avait très envie de retourner avec Gérard Depardieu. Mais à ce moment-là, il tournait Le Dernier Métro. Que Gérard Depardieu était extrêmement pris. Donc, il avait fallu trouver comme ça en douce. On l'avait tourné en 6 semaines, je me rappelle, ce film. Mais on avait reçu chacun, Gérard comme moi, un synopsis. Et François écrivait les dialogues le dimanche pour la semaine suivante.
Et puisqu'on parle de François Truffaut, parlons aussi de son premier film, Les 400 coups, présenté à Cannes en 1959. Et cette année-là, il y avait un autre réalisateur qui venait présenter un autre grand film, réalisateur que vous connaissez, Fanny Ardant, puisque vous avez tourné avec lui, Alain René, qui venait présenter Hiroshima, Mon amour. Je vous propose d'écouter Emmanuel Riva parlant de ce film. C'est au bord de la mer, c'est à Cannes, et c'est François Chalet qui mène l'interview.
On voit à Cannes en ce moment un film de René, Hiroshima mon amour. L'héroïne n'a pas de nom. Moi je m'appelle Emmanuel Riva. René a voulu faire un film d'amour situé à Hiroshima, c'est-à-dire dans le berceau de l'angoisse, où les gens revivent, enfin paraissent avoir oublié. En fait, nous n'avons pas plus oublié qu'eux. Il m'est arrivé pour ce film une aventure absolument extraordinaire, parce que c'est mon premier film. J'ai eu la chance de rencontrer René, Marguerite Duras, de découvrir le Japon, d'avoir interprété un personnage de femme. C'est la première fois que je joue un personnage de femme, parce qu'au théâtre, on m'a toujours donné les rôles de jeune fille. Les rôles d'ange, je crois, un peu. On ne voulait jamais me voir dans Les Infidèles. Mais cette fois, je suis vraiment une infidèle. Enfin, je suis une femme libre. Dans ma prime jeunesse, j'ai connu un amour allemand sous l'occupation. Un grand amour. Je devais partir en Bavière. Mais il est mort. Et moi, je ne suis pas morte d'amour. Alors je me suis mariée, puis je fais du cinéma comme ça parce que certainement que la vie familiale ne me satisfait pas tout à fait assez. Et je suis partie à Hiroshima tourner un film sur la paix. Là je rencontre un japonais, j'ai le coup de foudre, et puis ça devient une histoire de cœur. Mais je me rappelle, lorsque je fais à ce japonais la confidence de mon amour allemand, je me rappelle que cet amour fut un amour impossible. Et comme je ressens le même amour, je dis, je vais rejoindre la France. À quoi bon rester ?
C'est extraordinaire, la vie et le cinéma en même temps.
La précision de la phrase et de la pensée.
Non, mais surtout qu'elle puisse parler d'elle-même, de ses amours, de son histoire, tout en parlant du film, comme... Vous le faites assez bien aussi, Fanny Ardant. Pour vous, on a l'impression qu'il n'y a pas de frontière entre votre vie et ce que vous donnez au théâtre et au cinéma. Et vous pensez bien que si jamais j'ai ressorti cette archive, c'est aussi pour annoncer qu'en ce moment, au théâtre, vous reprenez le Hiroshima mon amour de Marguerite Duras.
Oui. Et alors moi, je dirais une chose en plus que disait Emmanuel Riva. La grande douleur de ce texte, Hiroshima, mon amour, c'est de dire, on va oublier. De même qu'on pensait que on n'oublierait jamais Hiroshima et que tôt ou tard un jour ça recommencera. De la même façon qu'on croit qu'on va mourir d'amour et que on oublie et qu'on peut aimer une autre fois. C'est ça la grande leçon d'Hiroshima, mon amour. C'est ça qu'elle dit, j'aurais dû mourir à Nevers. J'aurais dû mourir après qu'on m'ait mis dans cette cave parce que j'avais aimé un Allemand qui était l'ennemi de la France. Et je trouve qu'il y a une telle écho, parce que le fait que René fasse un film en 59, donc ça fait à peu près 15 ans que Hiroshima a été fait, et de la grande intelligence, c'est de dire, on croit qu'on va être marqué à tout jamais, mais ça peut recommencer, ou ça recommencera, avec comme une épée au-dessus de la tête.
Et vous, vous le reprenez aujourd'hui?
Voilà.
Fin 2018.
Oui, parce que j'étais le jouet cet été dans un festival qui dirige Michel Faux. Ça me plaisait beaucoup, cette metteur en scène Bertrand Marcos qui m'avait proposé de le faire. Et puis tout d'un coup, moi je n'aime pas ce qui dure longtemps. Et le théâtre de l'Atelier m'a dit, vous le feriez 10 fois? Vous trouvez pas que 10 fois, moi c'est un numéro que je joue au casino, mais 10 fois, il y a un début, un milieu, une fin. Donc c'est un texte tellement fort que vous pouvez pas le jouer en régulier. Et là comme ça, 10 fois, comme une bouteille lancée à la mer.
Merci Fanny Ardant d'être passée ce matin.
Non, merci à vous. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin.
Je me demande si cet amour aura un lendemain.
Lendemain.
Quand je suis loin de lui.
Quand je suis loin de lui.
Je suis loin de lui.
Voilà, Fanny Ardant vous cède sa place, cher Michel Simon, bonjour.
Oui, elle était merveilleuse comme d'habitude.
Comme d'habitude, effectivement. On vous retrouve tous les mois, Michel Simon, pour vos coups de cœur et coups de gueule.
Alors, de positif,
de la revue que vous dirigez. Alors, pour le coup de cœur, je suppose que c'est la couverture, c'est Les Veuves de Steve McQueen, sortie la semaine dernière.
Voilà, c'est vrai qu'on a fait une avant-première au Forum des Images qui a été un triomphe. Et c'est un film d'un cinéaste que nous aimons tous beaucoup, qui est un très grand cinéaste, qui a le capacité de se renouveler en permanence tout en étant fidèle à son cinéma, c'est-à-dire un travail d'esthétique très poussé. C'est un artiste qui expose aussi des installations et des petits films expérimentaux dans les plus grands biennales d'art contemporain, donc c'est un grand artiste contemporain, mais aussi un cinéaste et qui traite toujours de sujets de société, mais jamais de façon conventionnelle, c'est jamais des films à thème. C'est une réflexion. Hunger, c'était sur la guerre civile et la prison. Shame, c'était sur l'obsession sexuelle. 12 Years a Slave, le plus grand film jamais réalisé sur l'esclavage. Et là, c'est un film sur Chicago aujourd'hui, à travers un thriller de 4 femmes qui vont braquer une banque parce que leurs compagnons ont été tués dans un autre braquage. Donc, elles s'improvisent gangsters. Donc, c'est un film à la fois sur la mixité de Chicago. Chicago, c'est la grande ville, évidemment, avec des Irlandais, des Juifs, des Italiens, des Latinos, etc.
Mais surtout, il y a autant de femmes que d'hommes, et il était temps de donner les grands rôles à des comédiennes, à des actrices.
C'est un film féministe, c'est un film aussi sur le racisme. Donc c'est un film sur la politique, parce que les hommes sont tout de même importants dans ce film. Robert Duvall, par exemple, campe un extraordinaire mafieux, un ancien maire, dont son fils va prendre la suite. Donc c'est une réflexion, mais en même temps, c'est magistral au point de vue des cadrages, au point de vue de la lumière, au point de vue des inventions.
C'est un grand film, on est d'accord. Alors ce mois-ci, Michel Simon, on est d'accord pour les 2 points, hein, c'est-à-dire même pour votre coup de gueule, parce qu'on aurait pu dire la même chose pour le film d'Eva Husson, lui aussi sorti, Les Filles du Soleil, et pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est loupé.
C'est loupé, alors c'est malheureux parce que on a choisi une femme en compétition à Cannes, il y en avait même 2 autres, mais enfin, ça rend pas service à la cause des femmes. Faut dire ce qui est de présenter ce film qui a été très mal reçu, alors qu'il y avait des films comme En Liberté qui était hors de la compétition, qui était à 15 réalisateurs. Donc c'est un film, une tentative de film politique, mais alors en même temps, on dit pas, par exemple, les Yézidis. qui sont les victimes de Daesh, eh bien, on ne les nomme pas, on dit des persécutés. Pourquoi ne pas dire les yézidis? On a peur d'effrayer le public, de le rendre confus. On ne dit pas qu'il s'agit de Daesh, on dit les extrémistes. Pourquoi ne pas dire Daesh? Et puis, c'est un film à la fois avec des retours en arrière extrêmement lourdingues. Emmanuel Verco joue un reporter de guerre, elle n'est pas très convaincante. Il y a la merveilleuse Golshifteh Farahani.
Oui, parce que c'est ça l'idée du film, c'est de montrer des femmes résistantes.
Voilà.
Et guerrière.
Voilà. Alors, c'est là où Steve McQueen réussit merveilleusement. Ah ouais. Et là, on a un film laborieux, cliché, avec une musique redondante. Voilà. Donc, c'est un peu triste pour cette femme. Eva Husson, mais qui avait fait un premier film que j'avais pas du tout aimé, qui s'appelait Bang Bang, mais qui avait été extraordinairement bien accueilli par la presse. C'est sans doute pour cela qu'elle a été, justement, mise en vedette à Cannes. Voilà. Mais je voudrais aussi, tout de même, à propos de ce numéro de positif, dire qu'il y a un dossier sur Miloš Forman, qui est mort cette année, qui est un immense cinéaste, et de Prague à Hollywood, on essaye d'analyser toute son œuvre.
Merci Michel Simon, on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire juste l'année prochaine.
Absolument.
À bientôt.